Europe 1.
<rire> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vaut, deux heures qui vous permettent comme moi de passer l'après-midi en compagnie de Stéphane Bern, qui lui aussi, je sais, est ravi de me retrouver, puisque je sais qu'à chaque fois qu'il me voit, il se dit...
T'as tiré le mauvais numéro dans le chapeau, là.
Bonjour Stéphane, c'est moi.
Ah oui Mathieu, c'est vous. Oh, je suis si content de vous retrouver. Comme d'habitude, autour de trois personnages très différents qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, ils se sont fait gifler.
Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage.
Et notre premier personnage qui aurait été giflé est un pape, au Moyen-Âge. Le pape Boniface VIII qui paye sa lutte contre le roi de France, Philippe le Bel, dans ce que l'histoire a retenu comme l'attentat d'Agnani, du nom de la résidence estivale du pape, dans laquelle il aurait tout simplement été giflé par un soutien du roi de France. Puis, moins loin dans le temps, en retour en France avec Philippe d'Orléans, dit le régent, qui lui aussi s'est fait gifler en public, s'il vous plaît, par sa mère, la princesse Palatine, qui ne cautionnait pas l'union que le roi Louis XIV voulait lui imposer avec sa fille naturelle. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un personnage qui a reçu une gifle plus récemment et devant un plus grand nombre de témoins, Chris Rock.
Oui, c'est peut-être la gifle la plus médiatisée de l'histoire des gifles, sachant qu'il y avait des millions de personnes devant les Oscars et que la gifle est ensuite devenue un gif. Je prendrai des nouvelles de l'humoriste Chris Rock qui a encaissé sans broncher la gifle surprise de Will Smith avant de reprendre tranquillement ce soir-là le cours de la cérémonie. Quand je pense, Stéphane, que vous menacez de quitter le studio à chaque fois que vous estimez que je vous ai volé un point dans le quiz, vous devriez prendre une leçon comme ça de stoïcisme auprès de Chris Rock.
Vous avez raison. Et avec nous, comme chaque jour, ils sont aussi dans le studio et jamais pronts à le quitter, ce sont nos chroniqueurs. Celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ah oui, alors là, l'intimité, c'est peu de le dire. Savez-vous que ça n'est pas une gifle, mais une bonne fessée que l'on administre à tout nouveau-né pour le faire crier.
Aujourd'hui ?
Ah bien sûr, parce que le faire crier le contraint à respirer tout seul pour la première fois de sa vie, après quoi on l'examine pour déterminer son score d'apgar. Apgar comme apparence, pouls, grimace, activité, respiration, mais surtout comme Victoria Apgar, une américaine exceptionnelle qui consacra sa vie entière à la santé des nouveau-nés et des enfants.
Et puis, avec David Cassel-Lopez, nous remontons aux origines d'une invention qui fait notre bonheur au quotidien. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est la canette.
Oui, je suis très objet du quotidien en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment objet du quotidien.
C'est votre mission en même temps.
Oui, non, moi, je me suis écarté.
C'est vrai que vous étiez égaré.
On a eu le béton armé, c'est hein, quand même, je vous le rappelle.
Non, là, c'est vraiment la canette qui n'existait pas avant. Je vous dirai quand.
Et là, ce n'est pas la canette qui plaît à Olivier Pouls. Bonjour, Olivier.
J'en consomme assez peu. Même si on fait du vin en canette maintenant.
Du vin en canette.
Non, on pensait.
Alors
de quoi allez-vous nous parler? Vous remontez aux origines d'un plat?
Je vais vous parler du craquelin. Et vous verrez qu'en fonction de la région dans laquelle on se trouve, ce n'est pas le même produit qu'on vous servira si vous commandez un craquelin.
Le craquelin, c'est un dessert?
Alors c'est une pâtisserie qu'on trouve dans le nord de la France sous une certaine forme et qu'on trouve en Bretagne sous une autre forme.
Qui n'ont rien à voir?
Rien. Et pourtant, ils s'appellent tous les deux craquelins. Ouais, c'est étonnant.
Oh, c'est déstabilisant.
Il ne faudra pas craquer non plus dans le quiz. Bern to be alive. Stéphane contre Clémentine. Chaque jour, le choc des cerveaux. Ça sera dans quelques minutes, mais d'abord, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ah Stéphane, l'Italie, la Dolce Vita, le Chianti, les belle ragazze.
Les raviolis Buitoni.
Aussi, oui. Et son pape surtout, son pape.
Ah, j'adore.
Mais celui-là n'a pas été aimé de tous, loin de là, au point qu'il aurait reçu une gifle de la part d'un de ses nombreux ennemis. Stéphane Bern nous raconte un pape au Moyen-Âge et chef de la chrétienté violemment humilié, Boniface VIII.
Nous sommes le 7 septembre 1303. Direction le palais d'Anani, au sud de Rome. C'est là que réside le pape durant l'été. D'ailleurs, n'est-ce pas sa sainteté qu'on entend crier? Je vous propose d'aller voir ce qui se passe d'un peu plus près. Dans le palais pontifical, Boniface VIII est assis sur son trône. Face à lui, ses ennemis, français et italiens réunis, sont déchaînés. Cris et insultes fusent. La voix du pontife retentit. « Je suis pape, je mourrai pape !» Aussitôt dit, il se couvre de sa tiare, puis attrape sa crosse et les clés de Saint-Pierre, symbole de sa toute-puissance. Vêtu de son manteau rouge, il s'offre en martyr. Quelques minutes plus tard, c'est sa joue qui devient aussi rouge que son habit. Le chef de la chrétienté a reçu une gifle. Mais qui a osé lever la main sur le pape? Et pourquoi? C'est à Anagni, futur théâtre de la Torgue...
Alors, reprenons-nous, Stéphane.
Il y a plein de nœuds.
Il y a trop de nœuds. Je vous propose qu'on enlève des nœuds. On demande...
C'est à Anagni, futur théâtre de la Torgnole, que Benedetto Caetani, c'est son nom, voit le jour, aux alentours de 1235. Avocat puis notaire du pape Innocent IV à Rome, il reçoit le chapeau de cardinal à 45 ans passés. N'ayant pas de temps à perdre, il s'impose vite comme le cardinal le plus important de la curie romaine. Son ambition est sans limite, il gravit les échelons jusqu'au sommet, quitte à ruser pour y parvenir. Le 24 décembre 1294, Benedetto Caetani devient pape sous le nom de Boniface VIII. A-t-il poussé son prédécesseur Célestin V à la démission? C'est ce que certains pensent. En tout cas, le nouveau pape s'empresse de trouver une raison pour le mettre en prison. Boniface VIII est aussi malicieux qu'autoritaire. Pour imposer sa puissance, il utilise son image. C'est la première fois qu'un pape associe sa personne physique à l'institution pontificale. En témoigne son buste, réalisé en 1300, qui le représente avec les clés de Saint-Pierre dans la main gauche. Vous connaissez cette phrase tirée de l'évangile de Saint-Matthieu. « Matthieu, tu es Pierre ?» Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, le Christ avait joué avec les mots. Boniface VIII s'inscrit ainsi dans la droite lignée de l'apôtre à qui Jésus a confié la gouvernance de son église. Parmi les modèles du nouveau pape, on trouve aussi Innocent III, spécialiste de l'excommunication de rois, pour ne citer que Philippe Auguste, Jean Santerre. Boniface VIII porte à son paroxysme la théocratie pontificale inaugurée un siècle plus tôt par son prédécesseur. L'idée est simple, les papes veulent être au sommet de la pyramide du pouvoir. Pour eux, le pouvoir spirituel, donc celui du pape, est au-dessus du pouvoir temporel, celui des rois. Résultat, Boniface VIII se fait vite des ennemis dans toute la chrétienté. Il se brouille avec la puissante famille italienne des Colonna, avec l'empereur d'Allemagne ou encore, et surtout, avec Philippe le Bel. À ce moment-là, le roi de France est en guerre contre les Flamands et le roi d'Angleterre. Il a besoin d'argent. En 1295, il lève donc un impôt exceptionnel sur le clergé. Vous connaissez la dîme? Ici, c'est la décime. Normalement, il lui faut l'autorisation du pape pour lever des impôts sur les biens de l'Église. Mais cette fois-là, Philippe le Bel s'en passe. En apprenant cela, Boniface VIII enrage. Il publie la bulle « Clericis laicos » dans laquelle il rappelle à ceux qui l'auraient oublié que le clergé ne peut être soumis à aucun impôt sans l'accord du Saint-Siège. C'est compris? Ah, pas vraiment, non. Philippe le Bel a du mal avec l'autorité, enfin, quand il ne s'agit pas de la sienne. En 1301, un complot étourdi contre le roi de France par Bernard Cesset, l'évêque de Pamiers. C'est en tout cas ce que le souverain prétend pour faire aussitôt emprisonner le traître. Mais il faut noter que Bernard Cesset est un fidèle de Boniface VIII et cette arrestation pourrait bien être une provocation. Comme on pouvait s'y attendre, le pape est outré. C'est à lui de juger les prélats. Le conflit est loin d'être fini. Qui aura le dernier mot ? Boniface VIII tente de l'avoir le 18 novembre 1302 en édictant la bulle « Unam Sanctam ». Il affirme une fois pour toutes la supériorité des papes sur les rois. « Les deux glaives, je cite le texte, sont donc au pouvoir de l'Église, le spirituel et le temporel. Mais l'un doit être manié par l'Église, l'autre pour l'Église. L'un par la main du prêtre, l'autre par celle des rois et des chevaliers. » Et il ajoute « que toute créature humaine, par nécessité de salut, doit être soumise au pontife romain. » Le message est clair. La théorie des deux glaives tranche le débat. Enfin, c'est ce qu'aurait souhaité le pape, car les légistes du roi de France répliquent. Avant qu'il y eût des clercs, il y avait des rois, et affirment que le roi n'est responsable que devant Dieu. Certains racontent que Philippe le Bel fait même brûler la bulle, et il ne s'arrête pas là. Il veut faire traduire son auteur devant un concile pour le destituer. En 1303, pour lui faire passer ce message, il envoie son émissaire Guillaume de Nogaret avec 4 sergents en Italie. Mais entre-temps, le pape a prévu d'excommunier le roi de France. Nogaret prépare alors un coup de force. Les Colonna, en conflit avec le pape, se joignent aux Français. Direction Anagni, dans le Latium, résidence d'été du pape autoritaire. Leur entrée dans la ville est fracassante. Sur la place centrale, on peut entendre crier « Vive le roi de France et vive Colonna ! À mort Boniface, vive le roi de France !» Nogaret et Colonna pénètre dans le palais pontifical et se retrouve en face du pape. Nogaret lui annonce sa citation à comparaître, tandis que Sciarra Colonna est un peu plus virulent. Sa colère est telle qu'il aurait carrément giflé le pape. La claque a fait les choux gras des anticléricaux pendant des siècles. Dans les manuels scolaires de la Troisième République, on trouve même en prime une illustration du mythique affront. Mais alors, que s'est-il réellement passé ? La scène n'ayant pas été filmée, il est difficile d'en avoir le cœur net. C'est un moine de Saint-Denis qui aurait fait naître le mythe de la gifle dans sa chronique en racontant que Boniface VIII eût été féru deux fois d'un des chevaliers de la colonne, un colonna donc, n'eût été un chevalier de France qui le contesta. Mais la légende ne s'arrête pas là. Après lui, tout le monde y va de son commentaire fantasque. En 1492, le secrétaire de Louis XI, Nicolas Gilles, écrit un ouvrage sur l'histoire de France et y fait figurer la scène de la gifle en la teintant d'hémoglobine. Il le frappa de la main armée d'un gantelet sur le visage jusqu'à grande effusion de sang. Dans la chronique de Saint Alban, Guillaume de Nogaret et les Colonna affament le pape, ils l'attachent à l'envers sur un cheval et le font tourner jusqu'à perdre le souffle et l'équilibre. Les imaginations débordent de violence. De son côté, l'écrivain italien Giovanni Villani affirme que les adversaires du pape n'osèrent pas poser la main sur lui. D'autres chroniqueurs italiens viennent le confirmer. Gifle ou pas gifle, Boniface VIII, âgé de 73 ans, est en état de choc. Surtout que son trésor a été pillé. Il est dévasté. Le lendemain, prostré, il refuse même de s'alimenter. Quelques jours plus tard, les habitants d'Anagni le libèrent des Français. Il se réfugie à Rome, le Vatican étant le seul endroit où il se sent en sécurité. Trois semaines plus tard, dans la nuit du 11 au 12 octobre 1303, le pape meurt. Mais de quoi ? Ah ben là encore, les rumeurs vont bon train. Guillaume de Nogaret raconte qu'il aurait été enragé à cause de son impuissance à se venger de ses ennemis et aurait tenté de se suicider. Les chroniques délivrent des détails certainement exagérés. Il se serait frappé la tête contre les murs, aurait essayé de s'étouffer, ou se serait même dévoré le bras comme un chien. Ce qui est sûr, c'est que l'attentat d'Anagni a moralement brisé le pape dans son orgueil, le conduisant au trépas. Après sa mort, Philippe le Bel n'en a pas fini avec lui. Le roi de France intente à Boniface VIII un procès pour hérésie, idolâtrie et sodomie. Oui, oui.
Ah oui ?
Oui, oui. Il veut salir sa mémoire et lui donner en personne une gifle jusqu'au-delà de la tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette histoire, plus jamais un pape n'osera se faire le juge des rois.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, pour continuer à parler de Boniface VIII, essayer de démêler le vrai du faux, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir un historien qu'il connaît bien. Bonjour, Julien Théry.
Bonjour.
Bonjour, Julien Théry. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lyon 2. Cette gifle donnée au pape, on l'a appelée l'attentat d'Anagni. Ce nom montre la violence de cet événement, je suppose. En tout cas, c'est un cas unique dans l'histoire du pontificat.
Oui, tout à fait, et même presque un cas unique dans l'histoire des relations entre les autorités spirituelles et les pouvoirs séculiers en Occident. C'est un moment absolument mémorable qui a un peu condensé, disons, les tensions, qui est venu cristalliser, qui a été une sorte d'explosion après la montée des tensions entre l'Église et le premier État monarchique le plus puissant d'Europe à l'époque, la monarchie française.
Stéphane est revenu dans son récit sur l'ambition sans borne de ce Boniface VIII, qui, pour devenir pape, jusqu'à faire emprisonner son prédécesseur. C'était vraiment un personnage calculateur, il était assoiffé de pouvoir.
C'était un personnage très particulier, particulièrement autoritaire, qui avait une longue carrière de service de grand commis de l'Église au moment où elle était en train de devenir justement un État supranational tout au long du XIIIe siècle, avant d'être élu pape. Il était devenu extrêmement puissant, il a probablement joué un rôle important dans la décision de son prédécesseur Célestin V, absolument inédite, d'abdiquer.
C'était le seul cas. Abdiquer.
Certainement. Alors, il y avait des raisons, de toute façon, indépendamment de Boniface VIII, parce que ce Célestin V qui l'avait précédé n'était pas du tout fait pour exercer le pouvoir. Il avait été choisi en désespoir de cause par les cardinaux après plusieurs années de vacances du siège apostolique. C'était un saint homme faible, au fond, pas du tout fait pour résister aux pressions que l'on subit quand on exerce des charges aussi importantes. Et lui-même, au fond, s'était rendu compte au bout d'un moment que ça n'allait pas du tout, qu'il faisait un peu n'importe quoi, il distribuait les faveurs à qui les demandait. Et pendant ce temps-là, l'homme fort de la curie, c'était Boniface. Donc la manière dont il est arrivé au pontificat était un peu scabreuse. Mmh. Hein, et par ailleurs, comme c'était un type assez brutal, qui avait pour habitude de s'affirmer très violemment et de se créer toutes sortes d'ennemis, eh ben une fois arrivé sur le siège pontifical, il a continué, mais on a utilisé contre lui les circonstances très bizarres et très scabreuses dans lesquelles il était arrivé au pouvoir.
On a parlé des représentations personnifiées, des statues. Il avait un côté mégalo aussi.
Tout à fait. Et il est tout à fait vrai que Boniface est le premier à faire des statues de sa personne, hein, qu'il incarne lui et pas seulement la fonction pontificale. Mmh. Et on en a conservé plusieurs. Encore aujourd'hui, il y en a une très belle à Bologne, par exemple, gigantesque, hein, qui affirme son autorité. Mmh.
Mais pourquoi le pape prend-il le nom de Boniface VIII? Alors, il s'appelle Benedetto, il aurait pu s'appeler Benoît. Et plus généralement, vous pouvez rappeler peut-être pour Mathieu, comment le pape décide de choisir son nom.
C'est gentil.
Alors, ça a toujours un sens quand un pape choisit son nom. Et je peux donner comme exemple le plus simple, l'actuel pape François. Vous savez qu'il a, pour la première fois depuis plus de 1000 ans, Non, c'est pas qu'il a gardé son nom, c'est que pour la première fois, il a choisi un nom de pape qui n'existait pas.
Oui. Je veux dire qu'aucun prédécesseur. Il y a pas de chiffre en plus.
Ben voilà. Alors, au début, d'ailleurs, si vous savez peut-être, les journalistes se demandaient, mais alors comment on doit vous appeler? Est-ce qu'on vous appelle François Ier?
Oui, François Ier.
Et la Curie avait fait savoir, le département de communication de la Curie avait fait savoir que non, il fallait l'appeler le pape François tant qu'il n'était pas mort et qu'il n'y avait pas un autre François qu'on appellerait effectivement François II, on ne l'appellerait pas François Ier. Tout ça pour dire donc que le choix par un pape de son nom de reine est hautement significatif. Mmh. Si Bergoglio a choisi François, c'est parce qu'il veut en revenir, et c'est son programme, hein, c'était son programme de pontificat, il veut en revenir à la philosophie, si on peut dire, de François d'Assise, qui a refusé l'excès de pouvoir des clercs sur les laïcs. Il veut en revenir en cessant cette bataille contre la modernité que l'Église a engagée depuis les Lumières, surtout depuis le XIXe siècle, à une forme, disons, de bonne entente avec les laïcs, sans qu'il y ait ce divorce en quelque sorte entre la hiérarchie et les laïcs, qui serait, selon lui, à l'origine un peu de la déprise de l'Église.
Au Moyen-Âge, alors pourquoi Benedetto Caetani choisit Boniface VIII?
Pourquoi est-ce qu'il choisit Boniface? Alors les historiens ont été longtemps perplexes, parce que Boniface, c'est insolite à son époque. Il n'y a pas eu de Boniface depuis bien longtemps. Et en général, les papes prennent le nom d'un de leurs récents prédécesseurs. Ça a toujours un sens en relation avec leur passé souvent personnel avant d'arriver à la curie, parce qu'ils ont été au service de tel ou tel pape dont ils reprennent le nom, parce que éventuellement ils ont été à la tête de telle ou telle église comme cardinal dédié à ce saint dont ils reprennent le nom. Là, c'est assez insolite. On a compris, en étudiant un peu de près la documentation, que Boniface, en faisant ce choix, se référait à Boniface IV, un très lointain prédécesseur, au début du 7e siècle, qui a eu pour particularité, pendant son pontificat, d'obtenir que le Panthéon, vous savez, cette superbe église de Rome qui était le temple de tous les dieux païens de Rome, soit christianisé. Et le Panthéon, qui était devenu Santa Maria Rotonda, parce que c'était une église ronde, est devenu, à partir de ce moment-là, l'emblème de l'emprise de la papauté sur Rome et par extension sur l'ensemble de l'Europe. Et donc, c'était un peu un manifeste, en quelque sorte, ce choix de Boniface, qui le plaçait à la fois un peu comme le successeur des empereurs romains, et c'est une grande ambition de la papauté, que de succéder à l'Empire romain. Les papes prennent toute une série d'éléments du cérémonial impérial, à commencer par la couleur rouge, les chaussures rouges du pape, c'est la pourpre impériale. François est le premier pape dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge central, à avoir abandonné ses chaussures rouges. Et en Italie, ça a été un tremblement de terre, d'ailleurs. Mmh. On a bien compris que c'était une manière de vouloir renoncer au pouvoir impérial. Le Panthéon, donc, c'est l'insigne de l'Empire, au sens littéral, du pouvoir impérial exercé par la papauté sur Rome et sur l'ensemble de la chrétienté. Mmh. Et donc, c'est en mémoire de ce Boniface IV.
Il s'est fait appeler Boniface VIII.
Voilà, c'est ça.
Stéphane est revenu tout à l'heure sur cet épisode où le roi Philippe le Bel lève un impôt auprès du clergé. On sent que c'est cette décision qui met le feu aux poudres entre les deux souverains. Philippe le Bel s'est attaqué à quelque chose de trop important en voulant taxer l'Église. En même temps, j'imagine qu'il n'était pas le seul à le faire en Europe.
Pas du tout. Un peu partout en Europe, les États qui étaient en train de monter en puissance et qui n'existaient pas, il faut se le rappeler, quelques décennies ou un siècle plus tôt, ces États qui sont en construction, qui construisent des administrations, qui désormais doivent financer des personnels et surtout des armées, car ces États se font la guerre, ont besoin d'argent. Et il ne supporte plus, il n'accepte plus, c'est très nouveau et Boniface l'a pas compris. Et il n'a pas compris que le rapport de force était en sa défaveur désormais aussi. Il n'accepte plus ces états, ce qu'on appelait les libertés ecclésiastiques, hein, qui dataient de l'époque où il n'y avait pas d'états centraux précisément, et qui interdisaient, entre autres, de taxer les biens d'église, lesquels, il faut le rappeler à cette époque, représentent entre un tiers et la moitié des terres d'Occident. Or, la richesse, c'est d'abord les terres. Donc vous imaginez des états qui commence à aspirer à la souveraineté, hein, ce qu'on va bientôt appeler la souveraineté, qui se retrouve face à l'impossibilité, en fait, de se saisir d'une très grande partie de leur propre richesse. Et la première transgression, vous l'avez évoquée, Stéphane, c'est la bulle clericis laicos qui y répond violemment de la part de Boniface en 1296. C'est une transgression de donc cette exemption fiscale des églises faite en même temps par le roi d'Angleterre, Édouard Ier, et Philippe IV le Bel. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de se faire la guerre mutuellement.
Ils ont besoin d'argent.
Et voilà.
Dans un article, Julien, que vous avez rédigé sur le roi de France pour la revue L'Histoire, vous expliquez que dès les premières années du règne de Philippe le Bel, l'attitude royale à l'égard des droits de l'Église avait connu un changement radical. Partout dans le royaume, de durs conflits opposent les seigneurs ecclésiastiques aux officiers royaux. Philippe le Bel, au fond, a le même tempérament. C'est un personnage assez autoritaire, qui a une ambition personnelle aussi, et puis qui veut être roi, maître en son royaume.
Non seulement il veut être maître en son royaume, comme vous dites, mais même, peu à peu, s'affirme l'idée et se met en pratique une ambition qui consiste à être pape en son royaume, c'est-à-dire à exercer une autorité sur l'ensemble de ses sujets.
Qu'on appellera le gallicanisme.
Exactement, c'est la naissance du gallicanisme. Cette confrontation, hein, cette explosion entre Boniface VIII et Philippe le Bel, on peut considérer qu'elle signe la naissance du gallicanisme, parce que la leçon de tout ça, c'est que Philippe le Bel entend être le chef de l'Église gallicane, l'Église des Gaules. Voilà. Alors que, dans cette lettre que vous avez évoquée, Unam Sanctam, ce manifeste du 18 novembre 1302, le pape lui répond en disant « Il ne peut y avoir qu'une église ». Et c'est d'ailleurs pour ça que la lettre, la bulle, s'appelle Unam. Hein, c'est le premier mot, Unam Sanctam. Il ne peut y avoir qu'une église et qu'une tête. Sinon, on est face à un monstre, à un hydre. Il ne peut pas y avoir d'église nationale.
On a l'impression quand même que tous les moyens sont bons pour que chacun destitue l'autre. Hein. Boniface VIII et le roi, ils ont un pouvoir équivalent sur le royaume à l'époque ?
Alors, ils ont des capacités d'agir, des moyens d'action très différents. Le pape, justement, va commettre l'erreur, Boniface, d'essayer de montrer au roi qu'il n'est pas maître entièrement chez lui, parce que l'Église a une juridiction universelle et qu'elle peut gouverner, non seulement être exemptée d'impôts, mais agir à sa guise sur les terres qui lui appartiennent. Et c'est ça, cette affaire de Bernard Cessé que vous avez évoquée. Ce proche de Boniface VIII qui est arrêté par le roi en violation de l'immunité ecclésiastique alors qu'il est évêque de Pamiers et accusé de trahison et même d'hérésie par le roi, ce qui est une provocation envers Boniface. Pourquoi est-ce que c'est à Pamiers, dans cette petite ville de l'Ariège au sud de la France, hein, que les choses se passent et que finalement le feu va être mis aux poudres ? Eh bien parce que Boniface, au milieu des années 12, juste après son élection comme pape, hein, vers 1280, dès 1295-1296, parce qu'il y a un conflit de juridiction à Pamiers entre une abbaye de Pamiers et le roi de France, hein, qui et le comte de Foix et le roi de France, qui veulent se mêler des affaires de cette abbaye et de ses terres, Boniface VIII a pris une mesure absolument radicale. Il a créé un évêché de toutes pièces, sans prévenir le roi, et il l'a doté de terres. Donc il a montré qu'il pouvait intervenir dans le royaume, hein, parce que ça a des effets très précis, ce type de décision. Hein, ça place les terres sous un nouveau statut, ça remanie l'organisation locale, sans en référer au roi.
Mais il a un autre pouvoir, le pape, c'est qu'il peut excommunier le roi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le roi ne peut plus communier sous les deux espèces, et donc le peuple ne peut plus croire dans son roi, autant de la foi unanime, je veux dire, ne peut plus croire en son roi qui ne communie plus.
D'autant plus que le roi a été fait roi par le sacre, c'est-à-dire par Dieu, par l'intermédiaire d'un archevêque, l'archevêque de Reims, qui est un frère du pape, hein, et un successeur des apôtres, comme le pape. Oui, les sanctions canoniques, les sanctions spirituelles, et en particulier l'excommunication, c'est l'arme ultime, l'arme fatale. Alors, l'utiliser contre un souverain, c'est quelque chose d'assez rare. Vous avez rappelé Stéphane Innocent III, hein, le terrible prédécesseur de Boniface VIII, qui est dans la même lignée des théocrates, hein, au début du siècle, a beaucoup utilisé l'excommunication. Je crois qu'il a excommunié 6 ou 7 souverains au moins. Hein, je ne parle pas des grands seigneurs.
Bon, mais cette gifle, on peut savoir, Julien, elle a existé ou pas ?
Alors, c'est un mythe. C'est une histoire inventée a posteriori, peu après.
Il n'y a pas eu de torgnole.
Alors, c'est une chronique française du début du XIVe siècle, qui raconte cette histoire, qui dit que Charles Colonna, l'Italien qui accompagnait Guillaume de Nogaret, l'envoyé des rois de France, au moment où ils se sont saisis de la personne de Boniface, était tellement déchaîné, et ça renvoie aux mœurs italiennes, hein, aux désordres italiens, que il a pris son gantelet de fer, hein, comme vous le disiez, donc ça peut être assez lourd, hein, c'est un élément d'armure, pour lui mettre un soufflet avec. La chronique raconte ça pour dire, pour expliquer qu'en fait, Nogaret, l'envoyé du roi de France, a sauvé le pape. Il s'est interposé à ce moment-là. Ah. Il l'a préservé des violences physiques en s'en tenant à la légalité, prétendue légalité, qui consistait en fait à ramener, à faire se saisir de la personne du pape, à le ramener en France pour le faire juger par un concile universel de l'Église que le roi de France aurait convoqué. Boniface étant, c'était la grande découverte de Philippe le Bel, hérétique et menaçant toute l'Église.
Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui se passe après la mort de ce Boniface VIII? Est-ce que les relations entre le roi Philippe le Bel et l'institution pontificale s'améliorent, ou s'apaisent en tout cas?
Alors, non, il y a encore quelques années de troubles, et de troubles assez extraordinaires d'ailleurs, hein. La confrontation continue, et elle continue autour de la mémoire de Boniface. Parce que le roi de France et son conseiller Guillaume de Nogaret veulent mordicus que la papauté reconnaisse la légitimité des accusations d'hérésie qu'ils ont formulées contre Boniface. Mmh. Autrement dit, la légitimité de l'attentat d'Anani. Or, les souverains pontifes qui succèdent à Boniface transigent, forcés, hein, ils veulent pas subir le même sort que Boniface, avec cette grande puissance qu'est la monarchie française, mais ils ne veulent à aucun prix aller jusqu'à reconnaître qu'un hérétique aurait siégé sur le trône de pierre et que la royauté française aurait sauvé l'Église des méfaits de cet hérétique sodomite. Ça, ils ne le veulent pas le reconnaître. Et donc, il y a un rapport de force très dur qui s'engage, en particulier avec l'élection en 1305 de Clément V, qui pourtant vient du royaume de France et que les Français espèrent pouvoir manipuler, mais qui résistent. Mmh. Et la réponse à cette résistance, ça va être une autre affaire extraordinaire, donc directement liée à l'affaire Boniface, l'arrestation des Templiers.
Oui.
Les accusations d'hérésie contre un ordre religieux entier, très proche du pape, dépendant directement du pape, qui fournissait par exemple les deux cubiculaires, c'est-à-dire les deux chambellans, les deux personnes qui dormaient auprès du pape, ses gardes du corps et ses plus proches domestiques. Tous ces gens-là auraient été hérétiques et sodomites. Voilà la nouvelle accusation qui sort du chapeau de la royauté française pour faire pression. Et ça va marcher, puisque au bout de quelques années, il va y avoir un deal. La royauté va abandonner les poursuites contre Boniface en échange d'une suppression de l'ordre du Temple qui semble avoir donné raison au roi de France.
Bah, merci beaucoup, Julien Théry, d'être revenu avec nous sur ce pape qui avait la grosse tête un peu et qui s'est soi-disant pris une gifle.
Mais soi-disant, on a percé.
Voilà, maintenant on sait tout sur la gifle de Boniface.
On sait tout maintenant grâce à Julien Théry. Merci beaucoup.
Merci, c'est toujours un plaisir.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans compter. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous allez nous parler d'une femme qu'elle a compté pour pouvoir évaluer un nouveau-né. Vous nous racontez ce qu'a inventé, eh bien, Virginia Apgar, le score de Virginia Apgar.
Virginia Apgar, Virginia. Attention messieurs, là, personnage exceptionnel.
Vraiment.
Elle est née le 7 juin 1909 à Westfield, New Jersey, aux États-Unis. Et ce qui a déterminé sans doute sa volonté de devenir médecin, c'est qu'elle a perdu ses deux petits frères. Ils étaient trois enfants. L'un est mort de tuberculose et l'autre d'une maladie infantile chronique. Elle n'avait pas du tout d'environnement familial, médical ni scientifique. Son père travaillait dans les assurances. Mais quoi qu'il en soit, la marque de fabrique de cette famille Apgar, c'est l'énergie. Leur entourage les décrit comme des gens qui ne s'asseyent jamais. Ils sont toujours debout. Alors, écoutez plutôt, quand Virginia rentre au collège, elle s'inscrit dans 7 équipes sportives différentes. Je crois que vous deviez être en basket et peut-être natation, non?
Non, j'étais qu'en foot. Moi.
Oui, en foot, voilà. Elle, 7 équipes sportives. Elle joue du violon et du violoncelle, pour elle, bien sûr, mais en plus dans l'orchestre du collège. Elle écrit dans le journal de l'établissement. Elle appartient, bien sûr, aussi au club de théâtre. Et vous savez, dans ces annuaires qu'affectionnent les Américains, où il y a votre photo, un petit trombinoscope et une phrase qui est censée vous résumer, eh bien, ses condisciples écrivent « Franchement, comment fait-elle ?» parce que oui, en plus de cela, avec son père, elle fabrique des télescopes, elle aime passionnément pêcher à la mouche, elle joue au golf, et quand elle sera devenue adulte, elle apprend à piloter un avion. Elle est aussi une luthière amateur, donc un jour, elle escamote une étagère en érable dans une cabine téléphonique pour pouvoir fabriquer son propre violon. Non, elle est incroyable. Et comme ses parents ne sont pas très riches, eh bien, elle obtient des bourses tout au long de ses études, et ses succès scolaires la conduisent au collège de chirurgie de Columbia, où, bien sûr, dans les années 20-30, il y a 8 femmes sur 90 élèves, et elle termine quatrième de sa classe en 1933. Elle veut devenir chirurgienne, mais là, son mentor en chirurgie dit, Virginia, vous vous plantez. En chirurgie, c'est vraiment la discipline où veulent aller tous les hommes, donc ils vous marcheront sur les pieds. En plus, les patients eux-mêmes n'auront pas confiance en une femme, c'est trop tôt. Allez plutôt vers l'anesthésie. C'est une discipline encore balbutiante qui, pour le moment, est réservée aux infirmières, mais il y a beaucoup de progrès à faire. Allez là-dedans. Donc, elle va y aller. Elle va devenir une pionnière dans le domaine de l'anesthésie et grâce à elle, ça devient une spécialité médicale à l'Université de Columbia. C'est la première fois. Elle étudie en particulier l'anesthésie obstétricale. Elle déclare « La naissance est le moment le plus risqué de votre vie. Il est fondamental d'évaluer rapidement le statut du nouveau-né et d'identifier immédiatement ceux qui ont des besoins de soins urgents. » Dans les années 50, voyez-vous, un enfant sur 30 meurt à la naissance, ce qui est énorme. Alors ce score d'Apgar que va imaginer Virginia va permettre de déterminer le plus rapidement possible si un nouveau un problème de santé et s'il faut le soigner d'urgence. Le mot Apgar, c'est ce qu'on appelle, messieurs, une rétroacronymie. Vous voyez, comme SOS, Save Our Soul. Eh bien, c'est un nom qu'on donne à posteriori, bien sûr, et qu'on calque sur des lettres. Donc, comme elle s'appelle Apgar, eh bien, ça donne A comme apparence, P comme pouls, G comme grimace, A comme activité et R comme respiration. En gros, ce qu'on regarde...
Ça tombait bien, parce que ça
tombait très bien, mais peut-être qu'on aurait pu se dépatouiller. On a forcé un peu le truc, mais en gros, ce qu'on regarde...
Si elle s'était appelée Noël...
Avec
si
Dupont, Noël ou Berne, Noël, c'était difficile.
Neurone, œil... écoute...
C'est marrant que le premier mot qui vient à votre esprit quand vous dites Noël, c'est neurone. C'est vraiment rigolo.
Ah, c'est vrai, oui. En tout cas, voyez-vous, en gros, ça consiste à regarder la couleur de la peau, la fréquence cardiaque, les réflexes, le tonus musculaire et la respiration du nouveau-né. On effectue toujours ce test à deux reprises, à 1 minute, puis 5 minutes après la naissance. Et pour chaque critère, on donne 1 point, 0, 1 ou 2 points. Et un score d'Apgar inférieur à 3 s'indique que le bébé se porte pas très bien et que là, il faut vraiment intervenir. Oui, mais c'est vrai qu'avant l'existence de ce test, souvent, bien des problèmes éventuels échappaient aux soignants. À la fin des années 50, Virginia Apgar a déjà assisté 17 000 naissances. Et elle était notamment connue pour porter toujours sur elle une trousse de réanimation. Elle avait un canif et un petit tube en caoutchouc, comme ça si quelqu'un arrêtait de respirer autour d'elle, elle disait toujours « Jamais personne ne cessera de respirer en ma présence ». Et comme ça, tout au long de sa vie, elle est morte à un peu plus de la soixantaine, mais elle a quand même sauvé 16 vies in extremis grâce à son canif et son petit tube en caoutchouc. Elle a aussi consacré sa vie à la prévention des malformations congénitales et aux enfants qui souffraient de la polio, notamment. Donc en 1973, ça lui a valu d'être la première femme décorée de la médaille d'or de médecine de Columbia. Et en 1995, son nom est gravé sur le National Women's Hall of Fame, le mur des femmes célèbres. Elle n'a jamais pris sa retraite. Elle a continué à travailler jusqu'à sa mort, je le disais, à 65 ans, le 7 août 1974. Et Virginia Apgar ne s'est jamais mariée. Pourquoi ?
Elle ne voulait pas avoir d'enfant.
Elle le disait, non, elle le disait vous-même. Je n'ai juste pas trouvé d'homme qui sache assez bien cuisiner.
Oh, Virginia Apgar et son test d'Apgar.
On a appris des choses. Hein,
on a appris beaucoup de choses, mais il y a plus dur, plus redoutable que
le quiz. Oh, le quiz, non. Mais non, oui.
Oui, là
souvent,
aussi, il y a des points.
De
1-0, 1 ou 2.
À tout de suite.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'était un moment de l'émission que j'avais conçu afin de permettre à Stéphane Bern de nous éblouir par ses connaissances historiques. 389 numéros plus tard, force est de reconnaître qu'on n'a jamais eu besoin de lunettes de soleil. la dynastie Tang. Vous connaissez bien, Stéphane.
Dans le 13e.
En 610.
Oui, alors, bon.
Voilà, Stéphane.
C'est aussi une émission d'humour. Émission.
Oui, bien sûr, là-bas. Vous de savez, ce côté-là, vous apportez donc, l'essentiel, effectivement.
Mais quand je sens que, par exemple, je suis déficient en question de connaissance.
Tout de suite, vous basculez.
Je bascule dans l'humour.
Vous passez en mode stand-up. Oui, c'est brillant. Jouons à
quel caméléon.
Stéphane, première question, elle est pour vous, c'est la tradition. Vous le savez, Stéphane, le jardin d'acclimatation à la fin du 19e siècle a proposé dans son zoo de pouvoir observer des Nubiens, des Hottentots, des Somalis. Ces êtres humains pouvaient être regardés comme tous les autres animaux. Mmh. En 1877, où pouvait-on voir des Zoulous ? À l'Opéra de Paris ? Au Théâtre de Jazet ? Ou aux Folies Bergères ?
En 1860, combien ?
1877.
Oh, c'est mauvais, hein, cette date-là. D'abord parce que le pauvre prince impérial, là, il va finir.
Il n'est pas encore mort.
Il n'est pas encore mort, mais bon,
Il est mort, assassiné par les Zoulous. On a bien compris.
C'est notre cuisine interne. Allez, vous ne pouvez pas comprendre. C'est une querelle d'historiens. Alors.
Ça me dit quelque chose, les folies bergères,
je crois qu'il y a un piège.
Est-ce qu'elle existe
parce
déjà?
Folies bergères n'existe pas encore.
En 1877.
Non, puisque
donc c'est de Jazet.
C'est de Jazet, je dirais, oui.
Vous avez perdu.
Alors, monsieur l'historien, on fait le malin. Aux Folies Bergères. Tous les soirs, avec un certain succès. Zoulous, c'était des guerriers africains qui avaient combattu les Anglais pendant la guerre anglo-zoulou. Oui. La région en Afrique du Sud du Natal fut finalement annexée en 1897 par les Britanniques, Stéphane. Quel dommage.
J'ai tourné plusieurs fois aux Folies Bergères. Je revois la façade, si vous voulez, avec cette fresque russe. Et c'est les années, la Belle Époque. Donc j'ai pensé à la Belle Époque. Je me suis dit non, avant.
Vous avez peut-être confondu avec l'Olympia, qui est peut-être.
Non, je vois bien la Belle Époque.
Il vaut très bien. Ce que j'apprécie chez vous, Clémentine, c'est votre culture encyclopédique en matière d'histoire. Vérifions vos connaissances en histoire du verre soufflé. En 1858, on arrive définitivement à faire la parfaite boule en verre. On le sait car c'est cette année-là, précisément, que la tradition des boules de Noël est née. Vrai ou faux ?
En
1858.
Je pense qu'elle est née, me semble-t-il, est-ce qu'elle n'est pas née en Bohême ? Elle est née dans l'Est, en tout cas. Hein ? Est-ce que c'est en Autriche ? Est-ce que c'est en... Qui a une grande tradition du verre, c'est la Bohême. Alors, on aurait
mais
pas...
nous, c'est Meisenthal qui a fait les boules, les premières...
Je vous laisse deviser en historien.
Parce que vous nous parliez, du cristal, invention tardive du 19e. Est-ce que la surprise ne va pas venir du fait que cette première boule aurait été bien, bien antérieure à 1850 ? Est-ce que ça n'est pas un piège ? Vous nous parlez bien des boules de Noël spécifiquement, pas simplement d'une boule
de
verre quelconque.
Je vous parle des boules de Noël.
Bon, alors la réponse est...
1858, la boule de Noël en verre soufflé ?
Là, oui.
Vous avez perdu.
C'est faux. Alors, en fait...
Tout ça pour ça.
Avant 1858, on mettait surtout des pommes. Pommes. Or, cette année, la récolte fut très mauvaise. On a remplacé les pommes par des boules en verre. C'est ainsi que tout a commencé pour les boules de Noël.
Et ben alors,
je ne parle pas de moi.
Vous avez dit oui.
Effectivement, c'est bizarre que la réponse soit fausse alors qu'elle a dit oui. La question était, est-ce que c'est parce qu'on a réussi à définitivement faire la boule en verre soufflée qu'on en a fait les boules de Noël? La réponse est non, ça existait déjà, les boules en verre soufflées, c'est juste que cette année-là, il y avait
À ce stade du jeu où je n'ai qu'un point, je ne vois pas l'intérêt d'être d'une mauvaise foi aussi carabinée.
Vous avez zéro point, non pas un point. Tout le monde a zéro point, de toute façon, vous êtes nuls. Question numéro 3, Stéphane. Allez, je suis de bonne humeur aujourd'hui, spécialement pour vous, Stéphane, une question torture. Traîner nu, à même le sol, jusqu'à une potence, pendu, mais pas jusqu'à la mort. Éventré, éviscéré, émasculé vif, puis décapité et équarri. C'était là le programme qu'on réservait aux personnes coupables de haute trahison en Grande-Bretagne. La dernière fois qu'on l'a pratiqué, c'était en 1870. Vrai ou faux, Stéphane ?
Oh non.
Non.
Moi, j'aimerais bien que ce soit le cas.
Non !
Mais... Parce que là, au moins, il y a peut-être des photos. En 18...
un daguerréotype de l'écarissage du malheureux condamné à mort.
Écoutez votre cœur, Stéphane, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Est-ce qu'il a envie de voir des gens éviscérés, masculés, décapités, caries en place publique ? Il a envie.
Il me sera beaucoup reproché, mais.
Avec Samir, ça va mal se passer quand vous allez arriver. Alors, dites-nous.
En fait, personnellement, je dirais que c'est faux. Parce que je vois pas comment, en 1870, la reine Victoria...
Mais que vous dit votre petit diable
mais
sur l'épaule ?
C'est pas mon diable qui me dit ça. C'est vous qui êtes un diable. Et je me dis, il est assez pervers pour faire une question où c'est vrai. Je dirais oui.
Vous avez gagné !
Mais que foutait la reine ? C'est vrai. Jusqu'en 1870. Même si c'était sur un cadavre, ce qui perd un peu son charme, la dernière fois que nos amis anglais avaient pratiqué le hanged, down and quartered sur une personne vivante, c'était en 1810. En général, le supplice concernait les roturiers. Hein. Les nobles, eux, étaient simplement décapités.
Alors, le dernier, c'était 1810.
Le dernier qui était vivant.
Hein,
on n'a pas pratiqué tout ça.
Incroyable, 1810.
Et là, on l'a pratiqué sur un mort en 1870.
C'était
qui ?
Je n'ai pas cette information, Stéphane.
Ah ben c'est ça qui est intéressant.
Vous enquêterez. Question numéro 4, Clémentine. Félicité de la Ménée est née à Saint-Malo en 1782.
Je n'en doute pas.
Prêtre, député de l'Assemblée constituante.
C'est un homme.
C'est un homme. De 1848, il a écrit des ouvrages majeurs qui ont donné naissance à un courant de pensée assez étonnant. Lequel ? L'apathéisme, le déconstructionnisme social ou le post-relativisme ?
Non, j'opterais plutôt pour le déconstructionnisme social.
Donnez-moi une autre réponse.
Bon, ça n'est pas le post-relativisme.
Je ne pense pas.
Donc c'est le...
Ah non, mais attendez,
non, pardon, j'ai donné
non, non, mais ça c'est pas possible,
non.
Ça c'est une notion contemporaine.
C'est très contemporain.
Donc c'est le premier.
C'est l'apathéisme.
Vous avez...
Enfin, en philosophie, elle touche sa bille. L'apathéisme, c'est le premier courant à associer l'indifférence et la religion. En gros, ce n'est pas qu'il croit ou qu'il ne croit pas ou qu'il admet qu'il n'en sait rien. Il dit juste s'en foutre. Et si vous voulez tout lire sur l'apathéisme, lisez ou relisez Essai sur l'indifférence en matière de religion. C'est en 4 volumes, mais ça vaut le coup.
Mais d'où vient le mot ? C'est ça que je ne comprends
pas.
Non, mais
ne demandez pas d'explication, il ne sait pas.
Ah bah non, parce que là ça peut revenir
apathie,
à l'apathie. Apathique,
l'apathie et l'athéisme, Jean-Michel. D'accord, l'indifférence absolue. Oui, d'accord.
Jean-Michel.
Question.
Très intéressant.
C'est le bel indifférent.
Hein. Comme nous sommes en situation d'égalité...
Oui, donc il y a Mais ça vous, maintenant, vous l'avez compris. Ce qui vous intéresse, c'est la question 5.
C'est la question 5 qui vous départage. En 1960, le marathi devient la langue officielle d'un état de l'Inde, le Maharashtra. 11 millions de personnes parlent aujourd'hui le marathi. Un prénom féminin est très courant en marathi, c'est Nakoshi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Nakoshi ? Trois propositions. Petit vent qui vient de l'intérieur, celle qui, heureusement, ne parle pas trop, ou indésirable.
Trois.
On aurait appelé une fille indésirable.
Oui, personne.
Et Stéphane ?
Je dirais trois, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de filles qui... comme on ne veut pas de filles, on l'appelle indésirable parce qu'on ne veut pas de filles.
C'est une bonne réponse, mais c'est Clémentine qui a été plus rapide à la donner. Généralement, quand on a eu trois filles, on l'appelle Nakoshi, la quatrième, à savoir indésirable, parce qu'on est vraiment très déçu de ne pas avoir eu de garçon. Eh bien, en 2011, 200 Nakoshi ont changé de prénom.
200 Nakoshi en 2011.
Et par chance, elles vivent. Parce qu'autrefois, on les tuait à la naissance.
Ah oui,
parce
que même pas la chance. Hein. Ah, c'est comme le gars qui a été écari en 1810, lui aussi. Hein.
Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu en profiter, il était déjà mort.
Non, ça, c'est celui de 1860. Ça, c'est celui de 1870.
Vous repoussez chaque jour les limites de l'ignoble
mais
dans cette émission.
C'est abject.
C'est vraiment étonnant. Hein. Heureusement, c'est vous qui avez gagné, Clémentine.
Oh là là, je l'imagine bien avec une mitre, là.
Si c'est une mitre. Bon, enchaînons. Bravo, Clémentine.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures d'histoire rieuse au cours desquelles jamais ne m'est arrivé d'avoir envie de gifler Mathieu Noël. Et pourtant, j'en avais l'occasion.
C'est vrai, Stéphane, mais enfin, l'autre jour, vous étiez à deux doigts de gifler tout le monde, sauf moi.
Alors, ni bonnette, ni oreillette, ni texte. Non, mais j'en ai ras le bol de cette maison, tu vois.
Tant que vous ne me giflez pas, moi, je suis d'accord avec vous. C'est un scandale, Stéphane, on est très mal servi.
Bon, Mathieu, vous le savez, je suis non-violent. Et nos personnages du jour aussi. Mais eux, en revanche, ils se sont tous fait gifler. Après le pape Boniface VIII, giflé dans son palais d'été, je vous raconte le destin de Philippe d'Orléans, dit le régent, giflé lui aussi, mais par sa maman, la princesse Palatine, qui, en public, a montré sa désapprobation de sa future union avec pourtant une fille, mais naturelle, du roi. Quant à vous, Mathieu, vous revenez sur une gifle beaucoup plus récente et encore plus célèbre.
Oui, parce qu'elle a fait le tour du monde et qu'à peu près 2 milliards d'individus ont dû la visionner. La gifle que Will Smith a adressée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Il est devenu Jiggy with it, la baffe est partie toute seule, il a fini par s'excuser, mais l'Académie des Oscars l'a interdit de cérémonie pendant 10 ans. Aujourd'hui, je m'intéresse à la victime, Chris Rock, humoriste star aux États-Unis, qui a surtout brillé par sa capacité à rebondir après cette gifle. Quelle est son histoire, son parcours? Rendez-vous dans quelques minutes.
Eux aussi, ils savent très bien rebondir. Ce sont nos brillants chroniqueurs. David Castel-Lopez qui remonte aux origines de la canette.
De la canette, de boisson.
De boisson, bien sûr, la bière, le coca, parce que vous
avez des mouettes. Comment fait la canette?
Coin-coin.
Coin-coin. Oui, c'est vrai, c'est coin-coin, c'est bien fait.
Vous pouvez faire mieux.
Ah, bon. Ah non, moi je n'imite pas, j'ai pas les talents, c'est pas, je suis pas acteur.
Moi non plus.
Je joue pas dans Meurtre en Lorraine.
Arrêtez.
Mais non, chacun son métier.
Avec nous, on va parler du craquelin, mais du double craquelin.
Oui,
parce qu'il y a un craquelin du Nord, un craquelin breton.
Ce n'est pas la même spécialité. Je m'intéresserai plus particulièrement au craquelin breton aujourd'hui, mais je vous dirai un petit mot aussi de ce que ça représente en Belgique, notamment dans mon pays natal, où quand on avait du craquelin au goûter, je peux dire qu'on était content.
Alors, celui qui est dans le nord de la France.
Ah bah oui,
vous n'avez pas le breton. Forcément, ça n'aurait pas été très logique.
C'était vraiment très compliqué.
Et vous en avez apporté pour qu'on voit à quoi ça ressemble?
J'ai dû les oublier.
D'accord. Ou tous les manger. La lutte finale, en toute fin d'émission, c'est justement Olivier Pouls qui mène la danse. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Qui sait qui l'emportera? Qui sait qui l'emportera?
C'est très français, vous aussi. Faites des progrès.
Faites ma phrase.
Mais qui sait qui aujourd'hui emporte l'emportera?
Il manquait un aujourd'hui pour fluidifier la phrase. Oui. Bravo Stéphane, donc vous êtes là, vous êtes mon maître.
Oh non,
la lutte finale, ça sera en fin d'émission, mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il n'y a rien de plus humiliant que de recevoir une gifle, surtout quand elle vient d'un de ses parents, et encore plus quand on est adulte et prince de sang. Stéphane Bern nous raconte le futur régent qui s'est pris un sacré soufflet en public de la part de sa maman, Philippe d'Orléans.
Mettez une petite laine, Mathieu, je vous emmène à Versailles. Nous sommes le 9 janvier 1692, le vent s'engouffre dans la galerie des glaces. Oh, quelqu'un a laissé une porte entrouverte, cela ne va pas ranger l'ambiance déjà carrément glaciale. Philippe d'Orléans, 17 ans, neveu du roi de France Louis XIV, a l'air inquiet. Il s'avance vers sa mère pour lui baiser la main. Tout le monde sait bien que la princesse Palatine n'a pas sa langue dans sa poche. Eh bien, il se trouve que ses mains non plus. Devant les courtisans médusés, la mère décoche à son fils un soufflet si sonore qu'il fut entendu de quelques pas. La discrétion n'a jamais été son fort. Personne ne peut passer à côté de cette gifle que reflètent les 357 miroirs de la Galerie des Glaces. Le futur régent a les yeux mouillés, la joue rouge. Mais qu'a-t-il donc fait pour mériter ça? C'est dans la chaleur étouffante du mois d'août que Philippe d'Orléans voit le jour en 1674. Dans le château de Saint-Cloud, qui accueille le nourrisson, les parents enchaînent les réjouissances. L'ambiance est à la fête. Le précepteur de l'enfant, l'abbé Dubois, n'est pas écrasé par ses scrupules religieux. Il aide Philippe à se faire déflorer à 13 ans par une comtesse qui en a plus de 50, car après tout, tel est le destin sexuel des jeunes princes. Résultat, à 14 ans, Philippe d'Orléans est déjà papa. Oui, il a mis enceinte la fille du concierge des meubles du palais royal. Le rôle de père avec une domestique, oh, très peu pour lui, non. Il a goûté au plaisir de la chair et il en redemande encore et encore. Dubois lui trouve tous les jours une nouvelle maîtresse, selon le mémorialiste Saint-Simon. Détruit, décochonne, se précipite partout autour de lui, écrit-il. C'est pas moi qui le dis, c'est sa propre mère aussi.
Oui, c'est bien de le préciser.
Oui, c'est la princesse Palatine qui l'écrit. Louis XIV voit d'un mauvais œil les agissements de son neveu. Pour canaliser ses ardeurs, il cherche à le marier. Mais avec qui? L'heureuse élue n'est autre que sa propre fille. Françoise marie une fille illégitime qu'il a eue avec Madame de Montespan. Quoi de mieux pour la légitimer que de lui faire épouser un prince du sang? Philippe, alors duc de Chartres, n'est pas très motivé. Il a tellement de choses à apprendre, passionné de science et de nouveautés, qu'il ne songe pas à se marier. L'abbé Dubois parvient à le convaincre en lui faisant miroiter des commandements militaires, de nouvelles gratifications et mieux encore, l'estime de son oncle. En fait, il n'a pas vraiment le choix. On ne refuse rien au roi. Celui-ci intervient quand même. Le 11 janvier 1692, Louis XIV convoque son neveu. Il lui donne de nombreux arguments visant à le convaincre. L'Europe est à feu et à sang. La guerre empêche toute alliance avec une princesse étrangère. Il lui précise qu'au sein du royaume, aucune princesse de sang n'a son âge et qu'il est prêt à offrir une dot de 2 millions de livres pour l'acquisition de seigneuries et de terres. Le roi dit ne pas vouloir le contraindre, mais le mémorialiste Saint-Simon raconte que le discours est prononcé avec une majesté si effrayante qu'il n'est plus temps de refuser. Contraint et forcé, le duc de Chartres répond donc « oui ». Dans la foulée, on envoie chercher Madame, sa mère, la princesse Palatine. N'ayant pas d'autre choix, elle se soumet elle aussi. Mais la honte pour sa famille que son fils épouse une fille légitime est si grande qu'elle ne peut cacher son désespoir. Le soir, elle se promène, son mouchoir à la main, pleurant sans contrainte, parlant assez haut, gesticulant devant les courtisans. De son côté, résigné, Philippe d'Orléans joue tristement aux échecs. Il a les yeux rouges. La princesse Palatine pleurniche ensuite tout le long du souper. Louis XIV tente de l'amadouer, mais rien n'y fait. Madame est fâchée. À la fin du dîner, le roi lui fait une révérence très marquée à laquelle elle répond par une pirouette si juste que le roi, en se relevant, ne trouva plus que son dos et elle avançait d'un pas vers la porte. Quel affront ! Mais elle réserve un sort plus terrible encore à son fils. Le lendemain, ce n'est pas son dos, mais le dos de sa main qu'il reçoit en pleine face dans la galerie des glaces de Versailles. Et la future mariée dans tout ça ? À quoi ressemble cette mademoiselle de Blois ?
Ah oui.
Eh bien, selon l'avis de la princesse Palatine, elle ressemble à un cul.
Oh, Stéphane. Mais dans votre bouche, c'est choquant.
Il faut que je vous cite le portrait qu'elle en fait dans une lettre. Oh. Ma belle-fille est une désagréable et méchante créature. Elle ne s'inquiète pas de mon fils et méprise, monsieur, comme si elle était quelque chose de bon. Elle ne me fait rien, mais elle vit à mon égard dans une affreuse indifférence. Elle ne veut rien dire devant moi de ce qu'elle fait et reste quelquefois 15 jours sans venir me voir. Je la laisse courir et ne fais pas semblant de m'en apercevoir. Mais son arrogance et sa mauvaise humeur sont insupportables. Et sa figure est parfaitement déplaisante. Elle ressemble à un cul, comme deux gouttes d'eau. Elle est toute bistournée, avec cela une affreuse prononciation, comme si elle avait toujours la bouche pleine de bouillie et une tête qui branle sans cesse. Voilà le beau cadeau que la vieille ordure nous a fait. Dans ses mémoires, Saint-Simon reconnaît qu'elle n'est pas d'une beauté digne de sa mère. Ses sourcils sont pelés, ses joues pendantes et elle ne se déplace qu'en claudiquant légèrement. Celle qui devient duchesse de Chartres en 1692 est d'un orgueil si démesuré qu'elle croit avoir fort honoré Monsieur le duc d'Orléans en l'épousant. Il écrit aussi qu'elle est petite fille de France jusque sur sa chaise percée. Malgré la mésentente du couple, le duc et la duchesse d'Orléans donnent naissance à 8 enfants. Pourtant, même leur vie intime est loin d'être agréable. Philippe la surnomme carrément Madame Lucifer. Saint-Simon raconte encore que le dégoût d'un mariage forcé et si inégal lui fit chercher à se dédommager par d'autres plaisirs. En 1715, à la mort de son oncle, Philippe d'Orléans devient régent après moult manigances et le reste pendant 7 ans, jusqu'à sa mort en 1723. Entre-temps, des soufflets, il a dû en recevoir d'autres. Oh, pas de sa mère, non. Plutôt de ses très nombreuses maîtresses, car Philippe d'Orléans est resté dans la mémoire collective sous le surnom du régent débauché.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Philippe d'Orléans, nous sommes Stéphane avec une historienne qui le connaît bien. Bonjour Pascal Mormiche.
Bonjour.
Bonjour Pascal Mormiche, vous êtes professeur agrégé d'histoire moderne à l'université de Cergy-Pontoise et collaboratrice au centre de recherche du château de Versailles. Déjà, en quoi la princesse Palatine est un personnage central dans la cour de son beau-frère Louis XIV, avec qui il avait des relations étroite.
Déjà, c'est la seule belle sœur du roi, donc c'est une des personnes les plus importantes. Rappelons qu'il n'y a plus de reine à cette époque, puisque Marie-Thérèse est morte, décédée. Ouais. Et donc, par conséquent, c'est la femme la plus importante de la cour à
cette
époque.
C'est la première dame, en fait.
C'est la première dame, et elle joue ce rôle de première dame avec son caractère, avec son autorité, avec son humour, qu'elle tente de cacher quand même, parce que c'est pas facile de tenir l'étiquette et le protocole à Versailles. Alors, d'autre part, c'est une princesse allemande, tout le monde le sait, issue du Palatinat, elle est parfaitement instruite, elle est protestante, ce qui fait qu'elle détonne un peu dans ce Versailles. Mais on ne saura tout ça que lorsque ces lettres seront publiées, ou ont été publiées, c'est-à-dire au XIXe siècle. Pour l'instant, c'est la femme la plus importante.
Cette gifle qu'elle donne à son fils Philippe d'Orléans est donc assez célèbre. On a l'impression d'une véritable mise en scène de la part de la princesse Palatine pour faire passer à travers cette gifle un message. c'était la seule manière qu'elle a trouvée de s'opposer publiquement au choix du roi.
Effectivement, ça fait déjà plusieurs années que le roi avait supposé préparer un mariage de ce type. Plusieurs années que la princesse Palatine bloquait ce mariage. Mmh. Et là, on sent que depuis quelques jours, là, il y a une très très forte insistance de la part de Louis XIV. Alors, Louis XIV a d'abord convoqué les hommes, c'est-à-dire son frère, et puis son neveu, Philippe.
Ils ne peuvent rien lui refuser.
Ils peuvent rien lui refuser. Ils n'arrivent pas, ils ne parviennent pas à dire non, et c'est indiqué comme ça. Donc, il a fait, finalement, ils ont convoqué la princesse, Madame Palatine, et Madame Palatine, voyant que ni son mari ni son fils n'avaient pu dire non, mais elle se résolut à ne rien dire ou à dire un tout petit non.
Voilà. Mais d'ailleurs, comment, si on se replonge à l'époque, comment il est perçu ce geste au sein de la cour? On imagine qu'il choque. Qu'est-ce qui se dit au lendemain ou le jour même? Qu'est-ce qui bruisse dans les couloirs de Versailles?
Alors, je pense qu'il faut là évoquer le mémorialiste Saint-Simon, parce qu'en fait, cette gifle, quand on en cherche des traces dans les différents, les journaux, les gazettes de l'époque, on n'en trouve pas trace. Ah. Voilà. On n'en trouve pas trace. Une des seules lettres de Madame Palatine qui est écrite dit qu'elle est extrêmement malheureuse. Mais ne dit pas ce qu'elle va faire. Mmh. C'est la lettre de la veille. Voilà. Madame de Maintenon, elle, n'en dit rien dans ses lettres, montre qu'effectivement, il y a un très fort mécontentement dans la famille d'Orléans pour ce mariage, mais n'en dit rien de plus. Et ceux qui ont assisté sont très, très précautionnés parce qu'il ne faudrait pas fâcher le roi. Voilà. Mmh. Ça, c'est quand même aussi un vrai problème. Donc, si je lis d'Anjou, qui est celui qui effectivement tient la gazette la plus proche, mais une gazette qui est aussi réécrite par Saint-Simon, hein. Madame Palatine décocha à son fils un soufflet à lui faire voir des chandelles. Voilà l'expression. Tout était là, et tous ceux qui étaient là, il se trouva grand monde dans la galerie, étaient encore plus embarrassés qu'étonnés, tant Madame se contenait peu sur ce mariage. Et en fait, elle va donner cette gifle, je vais revenir juste sur cette gifle-là, parce que finalement, n'est-ce pas une vraie mise en scène? Et en fait, c'est la position entre Louis XIV et Madame Palatine qui était excellente jusqu'à présent. Mmh. Ils s'entendaient très bien, la famille était extrêmement soudée. Et bien à partir de cette gifle, on sent que Madame Palatine fait beaucoup moins confiance à Louis XIV et Louis XIV fait tout ce qu'il peut pour essayer de rattraper ce mariage ou ce geste malencontreux. Mmh. Et en fait, c'est clair que Madame de Palatine ne va pas pardonner au roi pendant très 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 longtemps.
Qu'est-ce qui est plus choquant au fond, selon vous? C'est la gifle qu'elle donne publiquement à son fils devant toute la cour médusée, ou c'est ce mariage entre un prince du sang et une fille illégitime du roi?
Mais je pense que la gifle a été largement majorée par les mémoires de Saint-Simon, puisque je répète qu'on n'y trouve pas véritablement de traces jusque-là. C'est une mise en scène saint-simonienne et littéraire, et formidablement littéraire, d'un homme qui est outré par le mariage illégitime. Alors, je pense que Madame Palatine est tout à fait dans l'état d'esprit de Saint-Simon. Ils ne se connaissent, enfin ils se connaissent, mais Madame la Palatine ne regarde même pas le petit duc de Saint-Simon, tellement la hauteur de la princesse Palatine est élevée, si je puis dire. Voilà, donc ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils écrivent ni l'un ni l'autre, et c'est nous qui avons la chance au XIXe siècle de lire leurs lettres. Et ils disent la même chose, c'est-à-dire ils disent combien ce mariage, cette hypergamie des filles du roi, est avilissant pour ces familles qui sont obligées de se marier, finalement. Voilà.
En tant que spécialiste de l'éducation des jeunes princes et princesses, vous évoquez dans votre livre, Le Petit Louis XV, que l'éducation sexuelle est fondamentale. En témoigne ce que Stéphane a raconté sur l'abbé Dubois et Philippe d'Orléans. Il fallait que les jeunes princes sachent le plus vite possible comment ça se passait, en gros, pour assurer la descendance, quoi.
Voilà. Alors, l'éducation sexuelle n'est pas plus fondamentale que toute autre éducation, l'histoire étant la priorité, bien sûr. Mais l'éducation sexuelle est un comportement à acquérir pour un garçon. Bien évidemment, vers l'âge de 15 ans. L'éducation sexuelle et surtout la pratique sexuelle organisée fait partie de l'apprentissage du comportement d'un prince. Et le garçon doit être instruit par une femme de la cour et non pas par une prostituée, une grande femme de la cour. Toutes se battent, et notamment pour Louis XV, je raconte comment lui, il a essayé de détourner cette histoire-là et il a choisi le moment où il coucherait pour la première fois avec une grande princesse, bien évidemment. En tout cas, le garçon doit être initié avant son mariage, qui n'est pas le cas des filles, bien évidemment. Les garçons jouissent alors d'une grande liberté sexuelle.
Philippe d'Orléans devient le régent du jeune enfant Louis XV, mais au départ, on apprend dans votre livre qu'il n'était pas du tout le premier choix pour ce rôle. Louis XIV voulait d'abord imposer ses enfants légitimés, ses fils légitimés, ou encore même, je suis tombé des nues, Philippe V, son petit-fils, qui était devenu roi d'Espagne. Et donc, il y a le vice de pérégrinité là qui s'oppose à cela. Comment est-ce que Philippe d'Orléans a fini par avoir la régence ?
Alors, il a fini par avoir la régence par une suite de malheurs extrêmement graves, puisque Louis XIV avait un fils, le grand dauphin, puis trois petits-fils, dont le duc de Bourgogne et Philippe d'Anjou, qui devient roi d'Espagne, qui est le deuxième étant destiné au trône d'Espagne, et le duc de Berry. Et puis après, il a des arrière-petits-fils. Et tout semblait aller très très bien jusqu'en 1711, jusqu'à la grande maladie, le petit froid polaire, la petite ère polaire qui commence en 1711. Tout le monde tombe malade à Versailles. Et c'est l'année des quatre dauphins, qu'a bien rappelé Olivier Chaline, où finalement tous les dauphins possibles pour hériter du règne du trône de Louis XIV, eh bien, meurent successivement. Et on va, alors qu'il y a trois arrière-petits-fils et qu'il en meurt deux, il nous reste le petit Louis XV. Voilà. Alors, la régence, maintenant, c'est un autre principe. La régence n'est pas monarchie-roi. C'est tout simplement que Louis XIV a cherché à placer son fils légitimé, le duc du Maine, et puis s'est aperçu qu'il était un peu pusillanime, qu'il prenait difficilement des décisions, et petit à petit émergeait l'intelligence de Philippe d'Orléans. Et c'est tout dans ces années 1711, la mort des quatre dauphins, et 1715, que Louis XIV, malgré son testament, parce qu'il est obligé d'obéir à son épouse secrète, Madame de Maintenon, qui favorise le duc du Maine, malgré son testament, on sait que par des gestes, il va favoriser l'intelligence de Philippe d'Orléans. Et Philippe d'Orléans, à la mort de Louis XV, casse le testament, tout simplement.
Et s'impose comme le régent du royaume. Merci beaucoup, Pascal Morbihan, d'être revenu sur ce régent qui s'est pris une gifle par sa mère, mais qui a élevé un futur roi de France, Louis XV. Je rappelle l'ouvrage que vous consacrez justement à l'éducation de Louis XV, « Le petit Louis XV », paru aux éditions du Champ Vallon. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui se sont fait gifler. Après Boniface VIII et Philippe d'Orléans, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un humoriste américain qui a reçu cette année une gifle qui a fait le tour du monde.
Oui, aujourd'hui Stéphane, je vous raconte l'homme derrière la gifle, celle qu'a reçue évidemment l'humoriste américain Chris Rock sur la scène des Oscars en mars dernier. Comment vous présenter Chris Rock sans vous diffuser un extrait de ses sketchs ? Disons que dans la vie, il y a être drôle, comme par exemple quand David prend deux baguettes japonaises récupérées dans sa commande Sushi Shop de midi pour s'en faire des dents de morse au milieu de la rédaction d'Europe 1, c'est drôle. Quand Stéphane Bern démarre un portrait de Bob Marley en imitant Bob Marley, inventant involontairement le rastafarisme luxembourgeois...
Rastafari.
C'est vraiment très drôle. Et bien Chris Rock, lui, dont les punchlines sont toutes, hélas, j'ai essayé, je vous assure, intraduisibles en français, c'est encore plus drôle que Stéphane Bern imitant Bob Marley. Chris Rock, c'est 3 Emmy Awards, 15 nominations pour ses talents d'auteur et d'humoriste et une étoile sur le Walk of Fame. Tout commence, oh non, pas à New York, en Caroline du Sud en 1965. Sa mère Rosalie est éducatrice dans le social, son père Julius conduit un camion de livraison. Chris Rock est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Dès l'âge de 6 ans, il réalise un truc étonnant. Quand je parle, je suis très sérieux et pourtant, tout le monde est absolument mort de rire. Il sent quelque chose, mais quoi ? À 8 ans, il a trouvé. Il sera auteur comique. Il scrute les génériques de fin des émissions d'humour et il se promet qu'un jour son nom y figurera. En attendant, ses parents, très stricts, l'envoient dans une école privée où les enfants sont en majorité blancs. Chris se fait régulièrement railler pour sa couleur de peau. Ah oui, il est noir, je précise. Et précisément, c'est dans ces brimades racistes qu'il va puiser l'inspiration de ses premiers sketchs. Bon à savoir, les enfants, si on vous chahute à l'école, vous pensez être molesté, raillé, humilié. Non, vous êtes en train d'écrire votre premier stand-up. Alors, Chris n'est pas un temple non plus, il est arrêté à 4 reprises. Une fois pour conduite dangereuse, 3 fois pour infraction au code de la route et notamment conduite sans permis et conduite trop lente. Ses idoles, Woody Allen et Jerry Seinfeld. Persuadé d'avoir trouvé sa vocation, Chris quitte le lycée en seconde pour se lancer dans la comédie. Les débuts sont mitigés, il enchaîne les petits boulots, bosse encore en parallèle dans un hôpital et dans un resto de homards. Il commence néanmoins à gagner sa vie et s'enchante d'un rien. Au McDo, il peut enfin commander un grand coca plutôt qu'un moyen coca. « J'étais émerveillé », raconte-t-il des années plus tard à Oprah Winfrey. « En 1985, il voit dans le journal une petite annonce pour une scène ouverte à New York réservée aux jeunes humoristes. Il passe l'audition, banco. Chaque soir, il fait partie de ces jeunes étoiles montantes du stand-up qui démarrent chacune de leurs phrases par « Hey les gars, ça vous arrive jamais de... » Un jour, Eddie Murphy le voit sur scène et décide de lui donner un petit coup de pouce. Il lui propose de tourner dans le Flic de Beverly Hills 2.
Nul à chier.
Alors, sans sombrer comme vous, dans la vulgarité, je vous concède Stéphane que c'est pas un chef-d'œuvre, hein, le Flic de Beverly Hills 2. Mais ça donne de la visibilité à Chris Rock qui élargit son public. Son cachet pour ce film, $600. Ne vous étouffez pas Stéphane, il va largement se rattraper ensuite. Car Eddie Murphy, décidément hyper sympa, le recommande aussi chaudement au producteur du Saturday Night Live, célèbre émission de stand-up aux États-Unis, une sorte de vendredi tout est permis mais drôle. Chris va s'y produire près de 60 fois avant de devenir la tête d'affiche d'un programme comique sur HBO en 1993. The Times et Entertainment Weekly le consacrent homme le plus drôle des États-Unis. Au cinéma, vous avez pu le voir dans des films comme Dogma, Mi-temps au mitard, Deux flics à Miami ou Nurse Betty. Il prête également sa voix à Marty, le zèbre de Madagascar.
Ah, you came to the right place, my friend. Dr. Marty, DDS is in the house.
I like to move it, move it.
Bref,
like
vous l'avez compris, Chris Rock est une énorme star mondiale qui pourtant veille à garder les pieds fermement ancré sur Terre. Il décide par exemple, alors accrochez-vous Stéphane, ça peut vous choquer, de vivre volontairement en dessous de ses moyens pour, je cite, ne jamais avoir à faire un choix professionnel alimentaire.
Quelle horreur!
Il achète donc un pavillon relativement simple dans le New Jersey où il vit avec sa femme et ses deux filles, sans piscine, ni jacuzzi, ni bain nordique.
Quelle horreur!
Homme de défi, Chris Rock ne se repose jamais sur ses lauriers. À 55 ans, il décide d'apprendre à nager, puis en 2005, il décide de présenter les Oscars. La cérémonie a besoin d'être sévèrement dépoussiérée et l'Académie estime que Chris Rock est l'homme de la situation. Et ça marche. Chris va rajeunir considérablement l'audience du programme qu'il présentera à plusieurs reprises jusqu'à l'incident dit de la torgnole surprise. Cette torgnole, on doit pas être loin de 7 milliards à l'avoir vue.
Aïe, oui.
Oui, les plus sensibles d'entre vous ont même eu mal pour lui quand la main de Will Smith s'abat sur cette joue. Heureusement, le Botox amortit un peu les chocs. On connaît tous l'histoire. Chris tente une vanne un peu lourdingue sur la coiffure de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will. Lourdingue parce que Jada Pinkett n'a pas de coiffure vu qu'elle souffre d'alopécie, une maladie auto-immune qui fait tomber les cheveux. Au début, Will Smith, bon camarade, se bidonne jusqu'à ce qu'il se retourne vers sa femme qui lui lance un regard noir.
Elle remue la queue, là. Elle disait « Vas-y papa, vas-y papa !»
Oui, c'est votre traduction très personnelle, ça, Stéphane. Peut-être non, quelque chose comme ça. En tout cas, elle tire la gueule. Soudain, Will Smith n'est plus hilar du tout. Il croit comprendre que sa femme attend une réaction de lui, il se lève, monte sur scène, tout le monde pense à un happening cocasse, validé pendant les répétitions, sauf que non, personne n'a rien validé, c'est un coup de sang, un vrai, un de ceux qu'on ne contrôle pas. Will Smith gifle violemment Chris Rock avant de retourner s'asseoir en continuant de l'insulter.
Le bâtard.
Oui, je sais Stéphane que vous avez vécu un moment de gêne similaire quand après une vanne un peu osée sur Clémentine Portier-Kaltenbach, elle vous a remis à votre place.
J'ai jamais dit que t'avais une grosse poitrine.
Si, vous l'avez dit. Chris Rock reste figé sur la scène des Oscars, KO debout, il tente de reprendre comme il peut. « This was a joke », explique-t-il à l'attention de Will Smith qui lui ne décolère pas et lui lance « Keep my wife's name out of your motherfucking mouth ». Google Traduction me donne « Garde ta femme dans ta baisable de bouche », preuve que Google Traduction n'est pas encore tout à fait au point. En gros, ne prononce plus jamais le nom de ma femme. Le public est aussi mal à l'aise que nous lorsqu'un couple ami dysfonctionnel décide de s'engueuler en plein milieu d'un dîner en nous prenant à témoin. On regarde le sol, on rit nerveusement, on fait diversion. Oh tiens, un pigeon vient de chier sur un parc-mètre, qui veut du clafoutis? C'est terrible ces moments-là. L'amour vous fait faire des choses folles, dira Will Smith pour tenter de se justifier. Certains trouveront qu'il a bon dos, l'amour. Hein. Non, Will, faire des choses folles par amour, c'est accepter un papier peint jaune citron sur un pan de mur des toilettes, c'est partir une semaine dans une cabane suspendue dans les arbres dans le Vercors, ou encore se faire épiler le pubis en reproduisant la forme des initiales de sa compagne. Ça, c'est des trucs fous qu'on fait par amour. Pas gifler un humoriste parce qu'il fait une vanne pas drôle. Dans un tweet, l'Académie des Oscars se dédouane instantanément. L'Académie ne tolère aucune forme de violence, écrivent-ils. Le lendemain, c'est la gueule de bois pour Will, qui s'excuse par tous les biais possibles et imaginables. Il demande pardon officiellement via un communiqué, via Twitter, via ses 40 attachés de presse. Trop tard. Le monde est choqué, le monde se réveille en se disant comme Stéphane.
Le bâtard.
L'Académie des Oscars monte d'un cran en écartant finalement Will pendant 10 ans. Will qui démissionne de lui-même. Les 7 milliards d'habitants de cette planète se divisent entre ceux qui le défendent et ceux qui l'accablent. Peut-on rire de tout? L'éternel débat est relancé. Nous, à Historiquement Vôtre, on veut croire que oui, même quand Stéphane se lance dans une imitation douteuse de l'accent chinois.
Vous confondez avec Mao Zedong.
On veut croire qu'il a le droit de le faire. Que ça ne mérite pas, en tout cas, qu'on porte atteinte à son intégrité physique. Chris Rock, de son côté, s'enferme dans le silence. c'est sa maman qui témoigne. Lorsque Will a giflé Chris, il nous a tous giflés. Moi, il m'a giflé. Quand vous faites du mal à un de mes enfants, vous me faites du mal à moi aussi. Will, lui, décide d'effectuer un voyage spirituel en Inde pour se laver de son péché. Il est minutieusement photographié à son arrivée à l'aéroport de Mumbai. Il s'est rendu en Inde pour un voyage spirituel durant lequel il compte pratiquer le yoga et la méditation, nous confie un proche. Laissez-moi vous mettre un petit coup de boule, Stéphane. Je rêve de prendre des vacances à Bali. Approchez, j'en ai vraiment besoin. Ou alors on fait l'inverse. Avouez que vous avez souvent envie de m'en mettre une.
Moi aussi. Non,
moi, ça vous démange. Surtout quand je me montre insolent.
Charlotte de Savoie fut reine de France durant 22 ans, au 15e siècle, par son mariage avec...
Guy Savoie. Ça y est, vous vous sentez mieux, cette grosse brute. Bah, namasté quand même, Stéphane.
Merci beaucoup. Merci, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui se sont fait gifler.
Pour retrouver Stéphane, deux individus qui ne se sont jamais fait gifler, sauf dans des lieux dédiés à cette pratique, entre adultes consentants, avec du matériel adéquat.
Et du gras de rognon aussi.
Et du gras de rognon aussi, ça va sans dire. Olivier Pouls, aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre produit qui vous est cher, le craquelin.
Oui, le craquelin. Belge ou breton, vous choisirez votre corps. Je vous expliquerai les différences et puis je donnerai une recette.
Et en attendant, on va découvrir une canette, mais celle qui sert à boire, pas celle qu'on dépiote. La canette, qui l'a inventée? C'est tout de suite avec David Castello-Lopez.
Vous serez d'accord avec moi, je pense que le verre et l'aluminium, ça évoque pas la même chose. Hein. Le verre, c'est la fragilité, la délicatesse, l'indolence des rentiers. Hein. L'aluminium, c'est la solidité de ceux qui travaillent avec leurs mains, de ceux qui se déplacent non pas dans des écrins de mollesse, mais dans la rigidité d'une caisse. Le verre, c'est chic. La canette en aluminium, c'est pas chic. Bon, faut savoir que jusqu'aux années 30 du XXe siècle, on ne mettait les choses à boire que dans deux types de contenants. Soit des contenants en bois, comme les tonneaux, soit plus souvent des contenants en verre, dans des bouteilles en verre. Et les bouteilles en verre, à l'époque, et jusqu'aux années 30, on ne les jetait pas. On les ramenait à la consigne, soit pour récupérer des bouteilles pleines, soit pour récupérer l'argent du verre. Je pense qu'on a tous encore connu ça. En tout cas, au Portugal, quand j'étais petit, c'était systématique.
Les bouteilles de lait consignées, les bouteilles de verre consignées.
Et ça, c'était un petit peu laborieux. Et donc, en 1935, il y a une entreprise américaine qui s'appelle l'American Can Company, qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, qui a eu l'idée d'adapter... des boîtes de conserve dans lesquelles on mettait, je sais pas, des petits pois ou de la soupe de tomates. Ils ont adapté ça aux boissons. Et ils ont lancé donc la première canette de bière jetable, 1935. Et l'argument principal de l'American Can Company, c'était bien celui-là. C'était que c'était jetable. C'est pas que la canette était en métal, qu'elle tenait bien dans la main ou qu'elle était solide. C'était qu'elle était jetable. Il y a un historien français qui s'appelle François Jarriche qui a écrit sur l'histoire des canettes et qui parle d'une des premières publicités pour la canette de bière en 1936 qui montre deux hommes en train de pêcher dans un lac et puis carrément de jeter dans le lac leur canette.
C'est
vide,
biodégradable, bien
exactement,
sûr.
Dans une ambiance qui disait trop sympa, on n'a même pas à les ramener à la consigne et vraiment on s'en fout qu'on est en train de jeter des canettes dans un lac. Alors ces canettes, c'était pas encore les canettes d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'était pas encore en aluminium mais en fer blanc. Et la seconde, c'est qu'il fallait un outil pour les ouvrir. Un outil qui permettait de faire des trous dans le couvercle, parce qu'il n'y en avait pas qui étaient faits à l'avance. On faisait un trou d'un côté, un trou de l'autre, et ça permettait... Oui. Ça permettait
un jour, vous nous ferez l'histoire du mec qui a inventé le trou dans la canette, enfin qui a inventé le...
Mais j'ai tout à fait pensé, surtout celui-ci.
Ça paraissait pas si vieux, ça. Hein.
Vous avez connu les canettes sans ça, sans le...
Sans les canettes, il fallait faire deux trous comme ça.
Il y avait les deux trous.
Ah ouais, il fallait les faire avec un outil.
Bien sûr, moi j'ai connu ça.
Ces canettes, donc, sans trous qu'il fallait faire soi-même, elles ont eu vraiment énormément de succès tout de suite et partout. Elles ont été copiées, d'abord doucement, puis très vite après la Seconde Guerre mondiale. En 1958, ça date de cette année-là, le fait qu'on, la canette en aluminium qu'on connaît aujourd'hui, et pas très longtemps après, en 1963, on a inventé, justement, la canette qui s'ouvre toute seule, avec la languette, mais qui n'était pas encore la languette attachée, qui était une languette qui s'enlevait, et qui ensuite qu'on trouvait sur les chemins de forêt, quand c'était un détritus qu'on trouvait partout, un peu comme des mégots de cigarettes. J'ai regardé pour préparer cette chronique une vidéo de 11 minutes, qui explique comment les canettes en aluminium sont fabriquées. Bon, moi, j'ai trouvé ça complètement passionnant et je sais souvent que quand je dis ça, les gens, ils rigolent. Ha, 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 on s'en fout de comment c'est fait les canettes, connard. Ce qui nous intéresse, c'est les investitures législatives dans les Deux-Sèvres. et moi, je dis non, c'est intéressant. Et en plus, la vidéo que j'ai regardée, elle avait déjà 15 millions de vues. Donc, vous voyez, je suis pas tout seul. Pour fabriquer une canette, on part d'un disque en aluminium tout fin et tout le travail de la fabrication de la canette, c'est de tordre ce disque en aluminium dans la forme d'une canette progressivement avec des outils en métal qui le cabossent, qui le chauffent, qui lui font prendre forme. C'est hyper beau à voir. Si vous avez 11 minutes de votre temps, je vous conseille de les consacrer à ça. Et puis à un moment, il y a un poinçon. Vous savez, en bas de la canette, il y a cet endroit qu'on appelle le dôme et qui solidifie terriblement la canette pour qu'on ait moins d'aluminium à utiliser. Et ben ça, c'est une machine aussi qui arrive et qui fait ce dôme. Il y a une pellicule qu'on met ici ensuite sur le bas de la canette pour qu'elle glisse plus facilement sur les tapis roulants de l'usine. C'est vraiment une joie industrielle totale que j'aimerais bien que vous partagiez avec moi.
On essaye, mais c'est vrai que moi j'ai jamais caressé une canette comme vous le faites. On sent qu'il y a vraiment un attachement à l'objet.
Ouais, tout à fait. Oui, puis aussi un truc très intéressant, c'est les canettes, le liquide, on le met à l'intérieur sous pression. Et pourquoi on ne met pas sous pression? On met sous pression pas pour le fun, mais c'est parce que ça solidifie la canette. Quand vous avez une canette qui est fermée comme ça, elle est sous pression et donc elle est solide. Je peux pas la plier. Or, quand vous l'ouvrez, ça devient beaucoup moins solide. Donc c'est aussi pour ça un truc qu'on a inventé dans ces années-là, le fait de mettre le liquide sous pression. Finalement, j'ai souvent parlé ici, vous savez, du mouvement hipster, dont l'objectif c'est de prendre chaque chose pas cool du monde et d'en faire des choses cool justement parce que personne ne les trouve cool. Eh bien, la canette n'échappe pas à ce mouvement. Il suffit d'aller dans un magasin de bière spécialisé à Paris pour voir que la France est pleine de micro-brasseries qui sont toutes alternatives et équitables et cool et qui pour la plupart proposent leur bière dans des canettes multicolores avec des paysages de vachement Bretagne belle, dessus, ouais. Vachement belles. Et donc c'est bien la preuve que la canette, elle est beau venir de là où elle vient, elle est devenue cool, elle est redevenue cool.
Ben, merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls en a deux. Deux craquelins, c'est le produit du jour, hein, vous nous racontez, c'est-à-dire le craquelin breton et le craquelin du Nord.
Voilà, alors effectivement, vous l'avez dit, en fonction de la région dans laquelle on se trouve, on va vous proposer deux choses différentes sous cette dénomination de craquelin. Alors si vous êtes en Haute-Bretagne, ce qu'on appelle les pays de la Rance, la vallée de la Rance, eh bien on trouve là-bas...
Ça n'a rien à voir avec le beurre Rance.
Non, pas du tout, Stéphane, non, moi ça me fait penser au cidre Val de Rance.
Ah oui. Bah, c'est la même région.
Oui.
Et là-bas on vous propose un produit qui est le descendant de ce qu'on appelle les échaudés. Les échaudés, c'est une préparation moyenâgeuse. Il s'agit d'une pâte qui contient des œufs, de la farine, de l'eau, de la levure, et qui était trempée dans l'eau bouillante, donc du coup échaudée, avant d'être cuite au four. Alors le nom craquelin apparaît au XIIIe siècle, il proviendrait du hollandais craquelink, avec l'accent.
Hein, ah oui, avec quel accent? Le vôtre?
L'accent hollandais.
Ça, c'est l'accent hollandais?
Je fais très bien l'accent hollandais.
Ah, c'est vrai? Oui. Ah, d'accord, oui. Vous maîtrisez, d'accord, pardon.
Autant l'accent chinois, pas trop, mais l'accent hollandais, pas mal. Donc, c'est ce qui veut dire biscuit qui croque. Alors, c'est un biscuit qui séduit Rabelais, Balzac et même Tolstoï qui en parlent dans leurs ouvrages. Et dont la mention officielle n'arrive dans les livres de cuisine que très, très tardivement au XVIIe siècle. En fait, c'est vraiment un biscuit dont la recette s'est transmise par l'oralité et qui était gardée un peu dans les familles. Aujourd'hui, il y a encore quelques producteurs de craquelin. Je crois qu'il en reste 4 ou 5 dans cette région. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une préparation qui est neutre. C'est-à-dire que dedans, c'est pas salé, c'est pas sucré. C'est quelque chose qu'on peut utiliser au petit déjeuner, par exemple, et mettre de la confiture dessus, ou qu'on peut même utiliser à l'apéritif pour mettre des choses salées dessus. Je vous expliquerai dans un instant comment on peut en faire. Mais d'abord, je vous parle de l'autre craquelin, le mien, en quelque sorte, celui que j'ai connu étant jeune et que je mangeais au goûter en rentrant de l'école.
T'en bouffes des trucs au goûter en rentrant de l'école, hein?
Oui, ben, je commençais par une bonne tranche de craquelin. Et le craquelin, quand on demande un craquelin en Belgique, eh bien c'est une brioche qui est constellée de petits morceaux de sucre qui croquent sous la dent. Ouais, exactement. Mais alors c'est quelque chose, c'est une pâte à brioche donc qui est bien gonflée. Et on a même son cousin qui s'appelle le kramik. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est.
Ah oui, bien sûr. On a ça au Luxembourg, du kramik.
Voilà.
C'est une brioche là pour le coup. C'est une brioche
aussi,
au raisin.
Exactement, avec des petits raisins secs. Et alors dernière chose, on parle aussi de craquelin en pâtisserie. C'est une petite couche qui est composée de beurre, de sucre et de farine, et qu'on met au-dessus de la pâte à choux, de manière à avoir des pâtes à choux qui montent vraiment bien, et puis qui sont aussi croquantes. Donc voilà, sous le nom craquelin, on peut trouver trois choses. Alors, une petite recette de craquelin facile à faire, 500 grammes de farine de froment de préférence, simplement un œuf, 25 centilitres de lait, 100 grammes de beurre, un peu de levure, et une toute petite pincée de sel. Vous allez faire chauffer le lait, vous ajoutez la levure, ce qui va lui permettre de se réveiller, de travailler un peu, on fait fondre le beurre, on réunit le tout avec la farine dans un grand bol, on mélange, on laisse reposer, on remélange à nouveau, on étale la pâte, on fait des cercles d'environ 5-6 cm de diamètre, et ensuite on les échaude, c'est-à-dire qu'on les trempe dans de l'eau bouillante pendant quelques secondes, dès qu'ils remontent, vous les sortez, tout de suite on les plonge dans de l'eau froide pour les refroidir, pour éviter qu'ils ne cuisent, et on les essore, et on termine la cuisson au four pendant environ une quarantaine de minutes dans un four à 200 degrés, et ça donne des petits biscuits très secs, et surtout très croustillants, très croquants, qui peuvent servir de base à plein de choses, comme l'apéritif auquel vous pourriez m'inviter ce soir, par exemple.
Bah, ça y est, il s'invite chez moi.
Vous feriez une petite préparation pour mettre dessus des rillettes, par exemple, de poisson ou de viande, comme vous voulez.
Des rillettes de poisson, ça sera sans moi, mais on tartinera autre chose dessus.
Non, mais il y a d'excellentes rillettes de poisson.
Bah, tu les amèneras aussi. Comme ça, j'aurais pas grand chose à faire, juste le craquelin.
Oui, ouais, comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'il m'invite à manger, c'est moi qui fais.
C'est bien cette répartition des rôles. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, va pas falloir craquer, on va jouer avec l'histoire, vous êtes prêts à vous affronter, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Est-ce que vous avez compris le principe, au fait?
Je crois que, oui, chacun une question. Si on est, il y a des égalités,
voilà, on est départagé par
une troisième. Au milieu de tout ça, vous trichez.
Mathieu, je commence avec vous. La mémoire du regretté Jean Bedel Bokassa. Président de la République centrafricaine, puis empereur de Centrafrique. Il avait, comme Jésus, une maman qui se prénommait Marie. Vrai ou faux?
Bah, c'est plausible, mais quel intérêt de la question?
Une maman qui s'appelait Marie?
Ou alors c'est un nom complètement farfelu.
On est en Centrafrique, vous voyez, des prénoms, c'est pas forcément Marie.
Non, mais c'est possible que ça serait une surprise. Vous voulez donc?
Non.
Ça serait un oui.
Oui, elle s'appelait Marie Yokovo.
Voilà.
Bokassa a perdu son papa quand il avait 6 ans, et sa maman, apprenant l'assassinat de son mari, se suicide l'année suivante. Voilà. Ça vous prédispose à être équilibré dans la vie. Voilà. David.
Oui.
Quand Jean Bedel Bokassa est sacré l'empereur Bokassa Ier, il se penche à l'oreille de son invité, le ministre français de la coopération, qui s'appelait Robert Gallet, et il lui dit quoi? Vous avez deux phrases possibles. 1. Vous venez de manger de la chair humaine, ou est-ce que vous voulez prendre une de mes épouses?
Je dirais la seconde.
Mais non, j'en ai marre de perdre tout le temps.
Non, il vient de lui dire, non. Vous venez de manger de la chair humaine au gala.
Non.
Faut dire, il y a eu beaucoup.
Il lui fait une blague.
Alors, on ne sait pas. Il y a eu beaucoup de rumeurs de cannibalisme concernant Jean Bedel Bokassa. Mais il n'y a jamais eu de preuve. Il est possible que c'était une blague. Parce que c'est vrai qu'il était parfois d'humeur taquine.
Facétieux, bien sûr.
Oui, bien sûr. Olivier. Bokassa a été catholique, puis musulman, puis catholique, ou musulman, puis catholique, puis musulman?
Quoi?
Dans quel ordre?
Est-ce qu'il a fini musulman ou est-ce qu'il a fini catholique?
Voilà.
Je ne me souviens pas de ses obsèques. Ah, encore que...
Encore que...
Je pense qu'il a fini catholique. Il a fini catholique.
Et puis en plus, je vous ai donné une réponse. Sa maman s'appelait Marie. Il y a de la chance... qu'il fut catholique. Oui, catholique, puis musulman, plus catholique. Cette petite période d'islam, voyez-vous, c'était pour se lier d'amitié avec le colonel Kadhafi.
Ouais, c'est de l'islam pratique.
Et par intérêt financier, mais ça s'est vite arrêté. Alors, il faut départager Mathieu et Olivier. Dernière question, donc, sur Jean Bedel Bokassa. Quand il est couronné empereur, sa garde-robe impériale est créée par Pierre Cardin. Sur son trône, on retrouve l'aigle impérial, cher à Napoléon, et sa couronne en or pur. Combien de carats de diamants sur la couronne d'or de Jean Bedel Bokassa?
On dit 1500 carats.
1500 carats, et vous?
47 carats.
47 carats, c'est 6 joueurs.
Oui, enfin bon.
Il en avait 7000. Donc voyez-vous, Il y avait un diamant là devant qui faisait déjà 60 carats. Ah alors ouais. Vous, 47, excusez-moi, je sais que la cour de Belgique est très sobre. Ouais. C'est Mathieu qui gagne, mais vous êtes loin du compte, hein, pardon. Mais...
Ouais. Ah bah oui, bah, enfin, je sais pas, oui. Pour moi, enfin, 1500 carats, c'est déjà beaucoup.
Oui.
Historiquement, votre spécial gifle, c'est terminé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain. Stéphane, oui. Vous connaissez le programme?
Bah, évidemment, je suis là pour ça. À l'occasion de la sortie mercredi du film Top Gun,
oh oui,
on réunit ceux qui ont passé le mur du son sans se poser de questions.
Ah, Willy Denze.
Oui, mais surtout Chuck Yeager, le premier pilote à l'avoir franchi, puis plus qu'un personnage, un symbole qui a laissé son nom dans l'histoire. Concorde, hey, l'avion supersonique à la carrière éclair.
Et mon personnage à moi a franchi le mur de son, le producteur à la coiffure improbable et à la vie qu'il était tout autant, vous verrez, Phil Spector.
Oh, ça veut décoiffer, là.
Oui, comme vous dites, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.